Dans le premier chapitre et le deuxième chapitre, on a expliqué longuement les deux âmes. Qu'au fond de nous, il n'y avait pas seulement une âme, il y avait deux âmes. Une âme divine et une âme animale. L'âme animale, c'est l'âme qui nous permet de faire tout ce qui est primaire. Ça veut dire manger, boire, dormir, réfléchir, tout ce qui est primaire. D'accord ? Et l'âme animale, elle s'exprime quand on va servir à Kadosh Baruch. Dans le chapitre 3 à 5, d'accord ? Donc là je suis à la page qui commence par 1 à 8. Dans le chapitre 3 à 5, on a expliqué la conception de l'âme divine. On a expliqué que l'âme divine est conçue de la manière suivante. Elle a d'abord la structure, c'est les 10 facultés, faculté intellectuelle, faculté sentimentale, et que l'âme divine avait 3 moyens d'expression pour communiquer avec Akadosh Baruch Hu, la pensée, la parole, l'action. Enfin, on a expliqué que l'âme divine communique avec Akadosh Baruch Hu principalement au travers de la Torah et les mitzvot. J'accélère parce que le début on l'a déjà fait de résumé, donc je ne veux pas trop m'arrêter dessus. Dans le chapitre 6 à 8, on a expliqué l'âme animale. L'âme animale, on a expliqué comment l'âme animale avait la même structure émotionnelle et intellectuelle que l'âme divine, sauf que c'est dans le mal. Par exemple, si l'âme divine, elle réfléchit dans le bien, l'âme animale réfléchit dans le mal. Si l'âme divine, elle aime dans le bien, l'âme animale aime dans le mal, etc. On a expliqué qu'il y avait beaucoup de choses, pour compliquer les choses, il y avait beaucoup de choses dans la vie qui étaient neutres. Et qu'on pouvait développer en bien comme en mal, mais il y avait des choses qui étaient le mal absolu. Ça, c'est en gros, on a expliqué, on a fait le tour du propriétaire, comme on appelle ça, pour expliquer les deux âmes, l'âme divine, l'âme animale. Ça a commencé à se corser, et c'est là que ça va commencer, c'est là qu'on va commencer à développer un peu mieux. Chapitre 9 à 17. Là, vous pouvez tourner la page. Chapitre 9 à 17, on est passé dans le deuxième tronçon du Tanya. On a essayé de comprendre, maintenant qu'on a compris qu'il y a deux âmes, on a essayé d'expliquer quel est le combat qui est entre les deux âmes. On a expliqué que c'est quoi le but du combat. L'âme divine et l'âme animale, chacune veut prendre le contrôle absolu du corps. C'est comme ça. Maintenant, au niveau des acteurs, il y a trois acteurs possibles. Il y a le tzaddik, le racha et le benoni. Au niveau de ce combat, prendre le contrôle du corps, il y a trois acteurs possibles. Premier acteur, c'est le tzaddik. C'est quoi le tzaddik ? Le tzaddik, on a expliqué dans le chapitre 10, c'est celui qui a pris le contrôle de son corps. C'est-à-dire que son corps, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'etzara. Le racha, c'est celui qui n'a pas le contrôle de son corps. Et c'est quoi le benoni ? Le benoni, c'est celui qui a des pulsions négatives, mais qui les repousse. Donc il a le contrôle de ses actes, mais il n'a pas le contrôle de ses pulsions. D'accord ? On a expliqué ça longuement. Et on a expliqué à partir du chapitre 13 que le benoni est le héros du Tanya. Pourquoi ? Puisque finalement, c'est celui qui il a des pulsions comme un rachat, et il se comporte comme un tzaddik, ce qui est extrêmement difficile. Parce que les pulsions continuent à arriver, ils continuent à avoir les désirs, ils continuent à avoir les plaisirs, et pourtant ils s'arrêtent. Alors on a expliqué que le benoni, il y a plusieurs catégories de benoni. D'abord il faut savoir, c'est accessible à tout le monde. C'est pas quelque chose qui est que pour certaines personnes, c'est accessible à tout le monde. Mais il y a des techniques comment devenir benoni. D'abord il a expliqué, il a dit que le but du benoni c'est quoi ? C'est toujours chercher à se dépasser, Oved. D'accord ? On a expliqué que la technique que le benoni doit utiliser, il doit savoir qu'au fond de lui, il a un amour caché vers un Kadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez de celui-là ? Et l'amour caché vers un Kadosh Baruch Hu fait que de série... Chaque juif peut, veut et peut battre son Yetzara. Et en vérité, si on ne le fait pas, c'est simplement parce qu'on ne le veut pas, pas parce qu'on ne le peut pas. Donc c'est un point très très important qu'on a développé, à savoir la notion que devenir un benoni, être un juif religieux, ça dépend simplement de la volonté. Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez tout mettre de côté, tout le reste.
C'est Hachem qui t'a donné la volonté ?
Non, c'est moi qui ai donné la volonté. Dieu m'a donné tous les outils, et après il m'a dit, maintenant c'est toi qui dois faire le dernier pas. C'est un point très important qu'on a développé ça. Ça veut dire que Dieu te prépare la table, d'accord ? Dieu te met la fourchette, il te met tout, il te met les verres, il te met Marcel qui te prépare, il te met tout. Mais à Kadosh Baruch Hu, il dit maintenant c'est toi qui vas prendre la cuillère et qui vas mettre dans la bouche. Ça, on ne te mettra pas la cuillère dans la bouche. Tu comprends ? C'est la même chose. C'est-à-dire que la volonté, il faut l'avoir. Si tu n'as pas la volonté, ça ne pourra rien faire. Et là, on était arrivé, maintenant je vais passer à la troisième page. On était arrivé au troisième tronçon du Tanya. Donc, premier tronçon, c'était faire le tour du propriétaire. L'âme divine, l'âme animale, le bien, le mal. Deuxième tronçon, c'était expliquer le combat qui est entre l'âme divine et l'âme animale. Troisième tronçon, hein, c'est bon, c'est marrant de résumer comme ça en quelques minutes des mois de Tania. Voilà.
Ça me donne une perspective pour la suite.
Mais voilà, exactement. Mon but, c'est de vous donner une perspective pour la suite. Donc, le chapitre 18, donc là maintenant on passe à la troisième page. Chapitre 18 et chapitre 18 à 25, on a donné des techniques pour expliquer comment en vérité la Torah et Mitzvot sont accessibles à chacun. D'abord, on a expliqué qu'on a l'amour caché au fond de nous. Et vous rappelez, on avait donné l'exemple de la bougie. Vous rappelez qui se rappelle l'exemple de la bougie ? que la flamme, elle bouge tout le temps. Pourquoi elle bouge tout le temps? Parce qu'elle veut revenir à ses sources. De la même manière, un juif, naturellement, chasse le naturel, il revient au galop. Ça veut dire qu'un juif, même si tu crois que sa flamme est éteinte, c'est comme une braise, que quand tu crois qu'elle est éteinte, en vérité, tu sais pas d'où elle revient, elle repart. Ça veut dire que jamais il faut croire qu'un juif est éteint. Et même lorsque tu crois que ça fait 20 ans qu'il n'a pas bougé, comme la braise, ça fait une heure tu crois qu'il n'y a rien, tu la touches et te brûle, parce qu'elle est toujours chaude. Un juif est toujours chaud vers Akadosh Baruch Hu. Enfin, on est passé après à un long tronçon dans le chapitre 20 à 24, sur les deux premiers commandements. D'accord? Donc ça c'était une série de quatre chapitres, dans lesquels on a expliqué que toute la Torah pouvait être résumée aux deux premiers commandements. Premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu. Deuxième commandement, tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est le commandement qui te rappelle l'unité d'Akadosh Baruch Hu, comment tout doit tourner autour d'Akadosh Baruch Hu. Et tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de croire qu'on est indépendant. On n'a pas le droit de croire que Dieu ne maîtrise pas chaque point de notre vie. Et en vérité, le challenge principal du Benoni et notre challenge, c'est de faire en sorte que notre centre d'intérêt principal soit Akadosh Baruch Hu, comme on l'a expliqué longuement. Et quand on fait une faute, même une simple faute, on est pire que le Satan en personne. Et enfin, on avait expliqué que il faut savoir que faire la Torah et les mitzvot, c'est accessible. C'était le point du chapitre 25. On a expliqué que chaque petit effort compte et que Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne 3 fois par jour, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que Akadosh, chaque petit effort compte. Moi, ce que j'aimerais, la vérité, ce que j'aimerais, c'est que tranquillement, quand vous rentrez chez vous à la maison, vous prenez ces feuilles, vous ne les laissez pas dans le livre. Vous les prenez chez vous à la maison pour montrer à votre femme, à vos enfants. Voilà ce qu'on étudie au Beit Rabbad. Et essayez de relire tranquillement. Prenez une demi-heure dans votre temps. Non, mais sérieusement. Prenez une demi-heure dans votre temps et relisez. Relisez. Vous allez voir que les notions que je viens d'expliquer, c'est les notions qu'on a vues dans le cours de Tania. Et que comment il y a une structure, on n'est pas parti dans le vent. Maintenant, je vais, dans la page 18 à 25, ça, on va les lire ensemble. Les prochains thèmes. Alors, page 18 à 25, vous avez ici, prochain thème. Vous avez en bas, vous le voyez? Alors, prochain thème. Donc voilà les prochains thèmes qu'on va étudier maintenant, du chapitre 26 au chapitre 40. Ah, ça va nous prendre encore une petite année, je pense, si tu veux. Alors. C'est du jeu. Parce que le Tania, il s'arrête au chapitre 53. Donc là, c'est le prochain tronçon. Maintenant. Alors, du chapitre 26 à 34, on va développer l'importance de combattre la dépression et la négativité. Donc là maintenant, on a commencé la semaine dernière à s'arrêter sur le concept de la joie. Le but du chapitre 26 à 34, donc il y a une grande série de chapitres. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur les autres thèmes, il y a 3-4 chapitres, il n'y a pas comme ça tellement de chapitres. Mais ça, comme c'est un sujet qui est très important et qui nous concerne toute la vie, l'Admor HaZaken s'est arrêté très longuement dessus, sur la notion comment combattre la dépression et la négativité. Donc ça, on aura sur ça jusqu'au chapitre 34. Après le chapitre 35 à chapitre 37, des chapitres que Michael attend beaucoup, c'est les chapitres dans lesquels on va essayer de parler du but pour lequel l'homme a été créé sur Terre. Ah, ouais. Ah ça, il s'attend. D'accord. Et voilà, ça, j'avais pas compris. Voilà, tu vois, c'est écrit.
C'est-à-dire que quel intérêt pour lui de créer un.
Il y a pas de problème.
Créer un Monopoly. Voilà.
C'est dans le programme. C'est dans le programme. Voilà, tu as le programme, tu comptes environ vers Pézard comme ça. Voilà.
Je voudrais dire au docteur Kostner qui vient pour les premiers chapitres sur la dépression là.
Ah oui, ben dans plein dedans. Et le chapitre 38 à 40, on va expliquer l'importance de la concentration dans l'étude de la Torah et la prière. Voilà. Ça, c'était juste un résumé. Comme vous pouvez le garder à Kavana. Maintenant, on va revenir à notre chapitre 26, notre chapitre aimé, le chapitre 26. Dans le chapitre 26, on a expliqué la semaine dernière, je fais un petit résumé maintenant du chapitre 26 pour ceux qui n'étaient pas là. On a expliqué qu'il y a une grande base, un grand principe dans la vie. Un principe très simple. Quand il y a une guerre entre deux personnes, vous êtes sur un ring, qui va gagner ? C'est pas forcément le plus fort.
Non,
c'est
malin, le plus intelligent.
C'est le plus déterminé. C'est celui qui est le plus besimcha. Celui qui est le plus convaincu qui va gagner.
C'est le juif.
Si un des deux est nonchalant, il est lourd, d'accord, il est fainéant, même si physiquement il est très fort, c'est une question de temps, c'est sûr qu'il va perdre.
Pourquoi tu dis besimcha alors?
Justement, on a expliqué que de la même manière, c'est binaire. Je peux pas être neutre. Soit t'es empressé, soit t'es nonchalant.
Zrizout alors.
Mais la simra, c'est Zrizout, ce qu'il a expliqué. D'accord. Donc, on a expliqué que si un des deux est nonchalant, il va perdre. De la même manière, quand on se bat avec le Yitzhara. Si pour nous, dans notre vie, faire une mitzvah, c'est une corvée, faire des bêtises, c'est un kiff, c'est sûr que le Yetzer nous fait fauter. Il faut changer ça. Il faut changer dans notre tête. Il faut changer dans la tête de nos femmes, de nos enfants. Il faut enlever ça de notre tête que faire une mitzvah, c'est galère. Et si c'est le cas, il y a un problème. Il faut consulter. Il ne faut pas penser comme ça. Jamais, chas v'shalom, il faut que quand on fasse une mitzvah, ce soit une galère. Et c'est pour ça. Si personne, c'est une galère. Une galère, c'est quelque chose qui pèse. Là, c'est un résumé, juste deux secondes. Je fais un résumé. En fait, c'est très simple. Ça veut dire que des fois, par exemple, il y a des gens qui font teshuva. Ça, je l'ai pas développé la semaine dernière. Et qui avancent trop vite. Et tu les vois, ils sont là, ils sont crispés. Tu dis, c'est quoi la Torah? Attends, je dois courir, je dois aller là. Il est crispé, le bonhomme. Tu dis, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est être crispé. Non, c'est pas ça, la Torah. Quand on est crispé comme ça, on se casse la figure. Quand on est angoissé, quand on n'est pas heureux, quand on n'est pas joyeux dans ce qu'on fait, on peut avoir une assiduité. C'est bien sûr. C'est-à-dire, on peut être sérieux, on peut vouloir étudier beaucoup, pas de problème. Mais dès qu'on n'a pas la simra, si on n'a pas la joie, sans la joie, on se casse la figure. Comme dans un combat, comme dans un ring de boxe, celui qui n'est pas convaincu, celui qui n'a pas la simra, il va perdre. Alors maintenant, on a expliqué la semaine dernière, on a dit, mais pourtant, on voit que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il y a différents textes dans lesquels il parle de l'importance de la tristesse. Il dit que la tristesse amène des bonnes choses, etc. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit, dans quel cas la tristesse amène des bonnes choses? Dans deux possibilités. Première possibilité, lorsque c'est programmé. Vous vous rappelez? Par exemple, j'ai programmé que maintenant, ce soir, à 11h du soir, je vais réfléchir à ma vérote. Là, effectivement, si je commence à réfléchir à ma vérote et que je suis triste de ma vérote, là, c'est bien. Mais si maintenant, on est 14h, mercredi après-midi, et que tout d'un coup, je me mets à penser à ma vérote, qu'est-ce que tu penses, David? C'est bien ou c'est pas bien?
C'est pas bien.
C'est un piège du Yetzer Hara. Il veut me déprimer parce qu'il sait qu'une fois que je serai déprimé, je serai un zombie, fait ce qu'il veut avec moi. Il faut jamais tomber dans les pièges du Yetzer Hara. On a expliqué que le but d'un juif, c'est jamais d'être triste. Et même dans les endroits dans la Torah où on nous demande d'être triste, par exemple ceux qui font Tikkun Ratzot le soir, il y a deux parties dans le Tikkun Ratzot. La première partie, on pleure. Deuxième partie, on est joyeux. Le but d'un pleur, c'est pour être joyeux. C'est-à-dire, chez nous, dans la Torah, le pleur n'est jamais un but en soi. Le deuil n'est jamais un but en soi. Ça n'existe pas. Même si on doit passer par le deuil, c'est pour mieux se réjouir après. Parce que le but d'un juif, c'est quoi? C'est d'être besimcha, d'être joyeux. Et ça, c'est quelque chose que le Harizal insistait beaucoup sur ça. L'importance d'être besimcha, qui est plus important, qui est Yitron Haor Min Achosher, comme la lumière est plus importante que l'obscurité. Alors, ça maintenant, ça, on s'est arrêté dessus, on va développer. Alors, voilà. Ouais, voilà, on a fait un résumé, on a parlé beaucoup. Ok. Umikra Malé Dibera Katouf. Il me semble qu'on s'est arrêté ici. C'est ça, Avraham, on s'est arrêté où?
Là, si tu dis là, tu fais comprendre.
Non, mais attendez, pourquoi je peux vous parler dans un livre en hébreu? Pourquoi je vous lire dans un livre comme ça? D'accord?
Page 10, voilà, exactement. Voilà. La deuxième ligne.
Parce que il faut que n'importe quand vous pouvez prendre ce livre, le relire et vous pouvez vous débrouiller avec. Vous allez voir que ces chapitres sont des chapitres très accessibles. Vraiment. Autant les chapitres d'avant, c'est des chapitres qui ont une structure qui n'est pas facile à suivre, ça je l'admets. C'est pour ça qu'on a fait un résumé, etc. Mais ça, c'est des chapitres, c'est des thèmes. Chaque chapitre, c'est un thème différent. Et c'est vraiment, vous allez voir que, après vous saurez, vous aurez un coup de déprime, pac, chapitre 26. Un coup de ça, pac, tac. D'accord. Bien joué. Après, les chassidim, entre eux, ils se parlent en chapitre, tu vois. Dès que tu vois un chassid qui parle, tu dis, toi, tu vas faire un tour par chapitre 26, toi. Etc.
Chapitre 41.
Et vous allez voir que chaque chapitre a son style. Alors. Ou Mikra Malé Diber Akatouv. Page 10, en bas de la page. Mikra Malé Diber Akatouv, la Torah, il y a un passou clair dans la Torah qui nous parle de l'importance de la simcha, qui nous dit Tachat Asher Lo Avata et Hashem Elokecha Besimcha Uvetuv Levav. Dans les malédictions, dans la parashat Kitavo, il y a 98 malédictions. Des malédictions très dures. D'accord? Des malédictions très très dures qu'Akadosh Baruch Hu il annonce au Israël. Et dans ces malédictions, à un moment, Akadosh Baruch Hu dit Tachat Asher Lo Avatet Hashem Elokecha Besimcha, que tu vas recevoir tout ça Tachat, au lieu d'avoir servi Akadosh Baruch Hu dans la joie. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aurais pu servir Akadosh Baruch Hu dans la joie, et à cause de tes averot, tu vas servir Akadosh Baruch Hu dans la tristesse. Mais il y a un commentaire du Harizal. Le mot Tachat en hébreu peut vouloir dire à la place, ça veut dire tu vas recevoir les épreuves au lieu d'avoir la joie. Mais le mot tachat en hébreu peut vouloir dire aussi à cause. Qu'est-ce que dit le Harizal? Le Harizal, il dit, tu sais pourquoi tu vas recevoir les malédictions? à cause que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Ça veut dire qu'on peut être un juif religieux, irréprochable au niveau des actions, qui fait toute la Torah et les mitzvot. Mais quand on n'est pas Bessibra d'après le Harizal, ça peut amener, Dieu préserve, toutes les malédictions possibles sur la famille. Très important ce qu'on dit ici. C'est comme ça que le Harizal dit. Le Harizal dit que c'est comme ça qu'il faut comprendre le pasouk, que pourquoi viennent les malédictions. Tacha tacher lo avata tachem loker abessimra. Que venoda la col pirouche à Harizal al pasoukze. C'est connu le commentaire du Harizal. Qu'est-ce que dit le Harizal sur ce pasouk, d'accord? Que pourquoi on va recevoir les malédictions? Parce qu'on n'est pas Bessimra. Et ça on le sait. La vérité, le Harizal nous le dit, mais c'est la vérité. On peut le savoir. Quand vous êtes déprimé chez vous à la maison, vous ne faites rien du tout. Automatiquement, vous décrochez avec toute la planète. Chaque phrase que la femme elle sort, tac, on explose. Le gosse il sort une phrase, tac, on explose. Quand t'es pas bien, c'est pas bien. Si c'est la catastrophe. Tu rates les affaires, tu rates la maison, tu rates tout. Et c'est vrai. Et tu rates même tes mitzvot. Même une mitzvot n'arrive pas à la vivre. Même un Shabbat. C'est un Shabbat, pendant. Bah, au Hashem, profite ton Shabbat. Non, elle n'arrive pas. Quand on est déprimé, quand on n'a pas la simra, on ne peut pas profiter de la vie. On ne peut pas profiter d'une mitzvah, de la famille, des enfants. C'est ce que le Harizal dit. Le Harizal dit, la Torah donne 98 malédictions, des malédictions très très dures. Et à la fin, c'est quoi le point le plus fort? Il dit, parce que tu n'as pas été Bessimra. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grande malédiction que ne pas être Bessimra, que ne pas être joyeux. Et ne pas être joyeux amène automatiquement toutes les malédictions. Pour nous expliquer l'importance d'être toujours Bessimra, d'être tout le temps joyeux. Maintenant, c'est facile à dire. Il nous faut des conseils maintenant, il nous faut des techniques. Vous comprenez, chacun il a des soucis dans la vie. Alors bien sûr qu'un enfant il est heureux, il n'a pas de problème. Mais quand on grandit, il y a des gens des fois qui disent j'aimerais bien redevenir enfant. Sans souci, sans rien. D'accord? C'est comme ça les gens ils parlent des fois. Sans facture, sans problème, sans rien. Mais concrètement, c'est difficile. Alors c'est facile de parler l'importance de la Simra. Qu'est-ce que tu veux remuer le coton dans la plaie? Si une personne n'est pas Bessimra, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, on est dans une période par exemple pendant les 3 semaines. Cette semaine, la fin de la semaine, on va commencer les 9 jours. J'espère que ma chère sera déjà là, mais en tout cas, pour l'instant, on est dedans. D'accord? Et donc, c'est pas une période joyeuse pour l'âme Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, il fait toujours en sorte qu'il y ait des événements autour de nous qui nous rappellent qu'on est en exil. Il suffit de suivre l'actualité, ce qui se passe avec l'Iran, etc. C'est-à-dire que les Américains, ils marchent même, ils sont en train de se rabaisser pour faire un accord avec les Iraniens. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. La vérité, il faut le voir pour le croire. C'est un truc de fou. Et ça veut dire tout ça pourquoi? Qui c'est qui est dans le collimateur finalement? C'est ouais. Israël, c'est sûr que c'est Israël. Pourquoi l'Iran veut faire une bombe atomique? Pour Israël. Elle va attaquer Israël. Et quand on voit ça, on se dit mais mince, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Tous, ils sont en train de se rabaisser, l'Amérique se rabaisse pourquoi? Pour réussir à signer un accord avec les Irans. Et les Irans et les Iraniens, ils sont en train de jouer aux échecs avec eux, ils sont en train de leur pousser, on repousse les dates encore. Ils s'amusent, c'est un jeu. D'accord? Les Iraniens, on sait très bien, les Perses ont toujours été très forts aux échecs. Ben là, ils sont très très forts. D'accord?
Le souffle
vivant. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en vérité, on est en exil. Quand on est en exil comme ça, on voit qu'on est attaqué de toutes parts. Tu dis, attends, je comprends pas, il n'y a pas un endroit dans le monde où on est tranquille. Partout on est attaqué. Partout il y a des problèmes. Comment tu veux que je sois Bessimra? Il nous faut des techniques.
C'est justement pour ça qu'on doit être Bessimra.
Il nous faut des techniques comment être Bessimra. D'abord, il faut expliquer, 2 secondes, c'est quoi la joie? Ça veut dire quoi être Bessimra? Être Bessimra, ça veut dire quoi? Croire que le monde est rose et bonbon? Ça veut être Bessimra? C'est-à-dire que le monde est en train de s'écouler, ah, tout va bien, Baruch Hashem, je t'abarre chez moi, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ouais, ça s'appelle un illuminé, ça. C'est ça notre but, il faut être illuminé. Il y a des situations dans la vie qui sont pas joyeuses. Alors, tu veux être joyeux de quoi? C'est-à-dire quoi être joyeux? Si je suis pas joyeux, je suis pas joyeux, laisse-moi tranquille, je fais ce que je peux, qu'est-ce que je fasse? Tu dis, non, il faut être Bessimra. Si t'es pas Bessimra, t'auras les malédictions et tu vas te tomber, les tsars. D'accord, les tsars, il m'a déjà eu, c'est bon, allez, je suis déjà par terre maintenant. Comment on peut avoir une technique pour être Bessimra? D'accord?
Nahum.
Alors, on va voir. On va expliquer. Faut qu'on s'arrête dessus pour expliquer comment on peut être, comment on peut faire pour être Bessimra. D'accord? Comment on peut faire pour être Bessimra? Alors, en fait, c'est très simple. Ce qu'on va essayer de développer, c'est comment surmonter différents obstacles qui nous empêchent d'être Bessimra. Maintenant, notre but à partir des 2 points sur lesquels on est arrivé là maintenant, c'est que pendant 3 prochains chapitres, on va prendre des situations de la vie qui nous dépriment, qui nous rendent tristes. Alors, plein de situations. Ça peut être des problèmes de parnassa, ça peut être des problèmes de santé, on peut être déprimé de sa verrote, plein de problèmes qui peuvent nous arriver dans la vie. Ça peut être la crise de la quarantaine, la crise de la trentaine, la crise de tout ce que tu veux. Non mais c'est sérieux. La vingtaine.
La crise de la dizaine.
On va parler. Non mais c'est sérieux. C'est des remises en question, bien sûr que ça existe. Mais évidemment que ça existe. Chaque âge, c'est une remise en question. Quand tu fais une remise en question et que tu vas chez le, quand tu vas chez le garagiste, t'es pour faire la grande révision et qu'il te dit, monsieur, il y a des trucs qui va pas, et tu dis, effectivement, elle est bonne à la casse, la voiture, hein. C'est la grande révision, tous les 10 ans. Alors, comment ça se passe? Donc là, maintenant, on va essayer de développer différents éléments de la vie qui peuvent nous déprimer et expliquer comment, on va pas les ignorer. Je dis pas qu'on va pas les ignorer parce que les éléments sont là. Mais on va quand même s'efforcer de rester Bessimra malgré ces événements. Et ça, il faut comprendre que ça, c'est une approche typique de la Gemara Zaken, auteur du Tania. Parce que parmi les élèves du Baal Shem Tov, Baal Shem Tov insistait beaucoup sur la Simra, il y avait plusieurs approches. Il y avait une approche de Chassidim, d'élèves du Baal Shem Tov, qui sont devenus les mêmes rabbis par la suite, qui disaient, pour être Bessimra, il faut ignorer les problèmes. Il n'y a pas de problème.
Ignorer les problèmes.
Il faut ignorer, il n'y a pas de problème. Dieu, il va tout régler. Non, mais et ça marche.
Non.
Ça marche. Il y a des gens comme ça.
Ça marche un temps.
Moi, je peux vous dire, j'ai vu comme ça, je me rappelle quand on était à l'Yeshiva. On avait quelqu'un qui était venu à l'Yeshiva, tête en l'air. Mais si je vous dis tête en l'air, il n'y a pas plus tête en l'air que lui.
Ça, c'est quand t'as pas des responsabilités.
Attends, non, mais écoute-moi, David. Écoute-moi.
Non, mais c'est involontaire, ça.
Non, non, pas tête en l'air. Je lui dis, mais prends-toi en main, etc. Laisse tomber, le gars, tête en l'air.
C'est involontaire.
Tête en l'air. D'accord? Et à chaque fois, Dieu lui a envoyé, je te promets.
Les enfants.
Dieu lui a envoyé des solutions sous le nez. Mais c'est extraordinaire, je donne un exemple. Enfin, puis une fois, il devait prendre un avion, il y avait un avion à prendre. Tête en l'air, le gars. Il dit, ah, c'est bon, on verra, on va se débrouiller à l'aéroport. Il a raté son avion. Il arrive là-bas, son billet n'était pas modifiable, il arrive là-bas, d'accord, tranquille, il dit, ah, voilà, bonjour, mon billet. Là, il me dit, monsieur, votre billet est annulé. Votre billet est expiré, il n'y a rien à faire. Et lui, il est là, il dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? Alors, comment on va faire? Il n'a même pas le temps de se retourner, il y a un juif américain derrière, il sort sa carte, il lui tenait plus lui le billet. Devant nos yeux.
D'accord, mais il a un bracha, celui-là.
Ouais, ça, c'est
nous, on était là, on se dit, ah, tiens, on va lui montrer un peu, le gars, qui se bouge un peu, celui-là. Non, non, tranquille, il a dit, je prends l'avion avec vous.
En première classe.
Comme ça. Il est au Navi, lui derrière, il a sorti la carte. American Express. Il est passé, il est rentré. Un billet dernière minute, comme ça,
normal.
One way.
Normal.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont cette approche, qui te disent, tête en l'air. Ils te disent, laisse courir, laisse couler, Dieu va faire les choses. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens, bien sûr, qui sont angoissés. L'approche de l'Admor HaZaken, qui est l'approche de Chabad, c'est une approche intermédiaire. C'est, d'un côté, on n'ignore pas ce qui se passe, et d'un autre côté, on apprend à, intérieurement, ne pas être dépassé par ce qui se passe. Parce que c'est ça le problème finalement, c'est qu'on est dépassé par les événements. Il y a un événement qui nous arrive et mon corps n'arrive pas à supporter ça, donc du coup, ça me dépasse, donc du coup, je déprime. Donc il faut essayer d'expliquer ce qui se passe. Et quand tu expliques ce qui se passe, quand tu t'expliques ce qui se passe, ou au moins tu arrives à faire en sorte que ton cerveau prenne le contrôle de ton corps, automatiquement tu calmes tout de suite. N'oubliez pas que dans la Chassidout Chabad, c'est une composante principale que le cerveau doit dominer le cœur. Et c'est une composante qu'on retrouvera dans tout le Tania, ça. Par exemple, ici, il va nous donner des scénarios types, et à chaque fois ce qui va revenir, c'est une réflexion à avoir pour se calmer. Il n'y a pas de truc dire « pique-toi et ça va passer », ça n'existe pas ça. Il faut réfléchir, il faut s'expliquer. Quand on s'explique, ça passe. Alors on va donner maintenant des exemples.
Annuler toute forme de colère alors.
L'approche de David Ameller, elle est plus comme la première approche que tu disais, un peu le « je m'en foutisme », non? Qui dit « Ashler halachem yehavecha », c'est où il y a le colère?
Ça dépend des périodes dans sa vie. Ça dépend.
Il jette tout ce que t'as.
Ton fardeau
sur Akadosh Baruch Hu et laisse-le s'en occuper. C'est un mot délaisse-toi.
Oui, mais ça veut dire ça, c'est une fois que t'as fait ce que tu pouvais. C'est pas directement tu jettes.
C'est à sourd comme ça.
Tu comprends?
Tu peux pas jeter comme ça.
Il faut que tu fasses un minimum d'effort. Quand même. Donc on va donner maintenant des exemples. On va donner des exemples concrets. Mais iné. Alors on passe directement maintenant à des exemples concrets. Alors prenons la raison. Je vais vous poser une question d'après vous. Quels sont, si on devait faire un palmarès, d'accord, quelle est d'après vous, quelles sont ou bien peut-être les raisons number one pourquoi les gens sont pas joyeux? Ils ont des problèmes dans quel domaine?
Déjà un deuil, la santé.
La santé?
Le travail, le chômage.
Le travail?
Bah ouais,
il y a trois raisons, la famille, le travail.
Alors, trois choses. Trois vecteurs. Vous allez voir trois vecteurs. Veiné.
C'est déjà pas mal.
Etza, Ayéhoud. Donc je suis en haut de la page 11. Veiné. Etza, Ayéhoud. Voici le conseil qu'on peut donner. L'étaher libo, pour purifier son cœur, mikol etsev de toute tristesse, venidnu de aga, et même l'ombre d'un souci, mimile de alma, des choses de ce monde-ci. Va filou, et même si il manque des choses essentielles comme banné, raillé ou maisonné. Ça, finalement, c'est ça le problème. Les gens sont angoissés à cause de quoi? Banné, les enfants, c'est-à-dire la famille, raillé, la santé, et maisonné, la parnassa. C'est les trois choses qui enlèvent la simcha. Je dis pas que la personne va arrêter de faire la mitzvot à cause de ça, mais ça enlève la simcha, ça enlève la joie de vivre. Qu'est-ce qui nous amène la joie de vivre? C'est Baruch Hashem, avoir des enfants, Baruch Hashem, être en bonne santé, Baruch Hashem, avoir la parnassa, de quoi manger. Quand il te manque, quand chas v'shalom, à aucun de vous, quand il manque à
une personne,
un de ces trois éléments, à plus forte raison quand c'est plusieurs de ces trois éléments, c'est très difficile. D'accord? Donc voilà maintenant notre premier scénario possible. On va essayer d'expliquer comment je peux nettoyer, purifier mon cœur de soucis et de tristesse, d'ombre de tristesse, sur des problèmes que j'ai dans des choses mondaines de la vie de tous les jours. Même des choses essentielles comme banné, raillé ou maisonné, les enfants, la santé et la parnassa. D'accord? Alors, comment faire pour être besimra? C'est ça la question. Alors, encore une fois, être besimra, ça ne veut pas dire que je vais régler le problème. Je veux bien qu'on explique. C'est-à-dire que le problème sera toujours là. Seulement, on va essayer de changer ma manière de voir le problème. D'accord? On est d'accord? Il faut bien comprendre les mots qu'il dit ici. Enlever la tristesse et enlever le souci. J'ai pas dit enlever le problème. Enlever le problème, ça, il faut des brachot pour ça. Mais des fois, il y a un problème. Le problème est là. Et le problème, on peut rien y faire. Il est là. Il est présent. Alors. Modat zot lakol. Il est connu la chose suivante. On va commencer à développer. Donc, on va développer une technique. Comment faire pour être besimra, même quand les choses vont mal. Modat zot lakol, c'est connu à tous. Ma'amar botenu zichonam livracha, ce que les chachamim m'ont dit dans la Gemara Brachot, page 54, c'est écrit Chayav Adam levarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova. Un homme a l'obligation de bénir à Kadosh Baruch Hu sur le mal qui lui arrive, de la même façon qu'il a l'obligation de bénir à Kadosh Baruch Hu sur un bien qui lui arrive. D'ailleurs, c'est pour ça, lorsque personne apprend une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Baruch Dayan Haemet. On bénit Dieu. Donc la Gemara te dit, on a l'obligation de bénir Dieu quand un mal nous arrive, de la même manière qu'on l'aurait béni quand un bien nous arrive. La Gemara, elle pose la question, elle a dit, ça veut dire quoi de la même manière? C'est pas de la même manière. Quand il y a un bien qui m'arrive, je suis content. Quand il y a un mal qui m'arrive, je suis pas content. De me dire, tu dois bénir dans les deux cas, bon, je dois bénir dans les deux cas, il n'y a pas de problème. Mais apparemment, la Mishnah nous a dit, tu dois bénir Dieu de la même manière que tu bénis, donc tu dois bénir Dieu pour le mal, de la même manière que tu mérites que tu bénis pour le bien. Au Firshu Bigmara, et la Gemara a expliqué, les Kavule Besimra. Ça veut dire quoi quand on dit qu'on doit accepter bénir Dieu sur le mal de la même manière qu'on bénit Dieu sur le bien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit l'accepter avec la joie. De la même manière, quand il y a du bien qui m'arrive, j'accepte comment? Avec la joie ou avec la tristesse?
La joie.
La joie. De la même manière, quand il y a du mal qui m'arrive, je dois l'accepter avec la joie. Ça, c'est déjà compliqué. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. Une fois, il y avait un rave, Rosh Yeshiva, qui était dans les affaires. Comme il était Rosh Yeshiva, donc il y avait sa femme, il y avait un gérant qui s'occupait de ses affaires. Il y avait beaucoup d'affaires, des affaires qui partaient avec des bateaux. À l'époque, c'est souvent les bateaux, d'accord? Il y a une affaire sur laquelle il a misé très gros. Et lui, tranquillement, il était assez Yeshiva. Maintenant, les bateaux sont partis, et il y a une information qui est arrivée, qu'il y a eu une tempête dans la mer, et que concrètement, on a dû larguer toute la marchandise, les bateaux sont revenus vides. Il y a eu un bateau qui est revenu, qu'un bateau, et voilà, il n'y a pas de marchandises. On est venu annoncer ça à la femme du rave. Dire voilà ce qui s'est passé. D'après vous, comment on doit faire pour en parler au rave? Votre mari. Alors sa femme, elle a dit, moi je ne sais pas comment je vais lui parler de ça. Je ne sais pas comment y prendre. Il a un élève, je sais que c'est un élève qui l'apprécie beaucoup. Cet élève est très intelligent. Allez lui raconter. Et lui, je pense, il va trouver la manière comment raconter qu'il a perdu son argent. Alors on a raconté à l'élève. D'accord. L'élève est venu poser une question au rave. Voilà, bonjour Rav, etc. J'ai une question à vous poser, bien sûr. Voilà, j'ai une question à vous poser sur la Gemara Brachot, page 54, bien sûr. Il dit, j'ai pas compris, qu'est-ce que la Gemara a dit? Elle dit, je vais t'expliquer. La Gemara a dit que de la même manière qu'on doit bénir à Kadosh Baruch Hu pour la Simra, pour le bien, il faut bénir à Kadosh Baruch Hu pour le mal. Alors, attends deux secondes, je peux finir. Alors, il lui dit, mais ça veut dire quoi? Elle dit, voilà, la Gemara a dit. Ça veut dire qu'il faut l'accepter avec la joie. Il dit, mais quoi, ça veut dire quoi, accepter avec la joie? Non, c'est trop facile, on peut pas accepter avec la joie. Alors, le Rav, il dit, ça veut dire que de la même manière quand on apprend une bonne nouvelle, on se met à danser. Et ben de la même manière, quand on apprend une mauvaise nouvelle, il faut danser. Le Rav, il dit comme ça. Alors l'élève, il dit au Rav, il dit, eh ben Rav, vous pouvez danser. Et le Rav s'est évanoui. Ça veut dire quoi?
Il est tellement heureux, il s'évanouit.
Non, ça veut dire que c'est facile à dire,
ouais,
mais c'est pas facile à faire. Vous comprenez?
Et c'est ce qu'on va essayer. Il a compris qu'il a tout perdu.
Bah oui, il a compris, sûr que j'ai compris. Il a dit, vous pouvez danser. Ça veut dire que ce qu'on va expliquer, en théorie, c'est facile à dire. En pratique, c'est pas facile à faire. Mais il faut quand même l'expliquer. Qu'est-ce que veut dire la Gemara? Qu'est-ce que veut dire la Gemara quand elle nous dit, parce que n'oubliez pas que c'est la technique. Comment faire pour nettoyer son cœur de l'angoisse? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut accepter avec la joie une mauvaise nouvelle. Comment tu veux que j'accepte une mauvaise nouvelle? Depuis quand je peux être joyeux pour une mauvaise nouvelle? De quoi je serai joyeux? Pourquoi tu veux que je sois bien? Personne n'apprend une mauvaise nouvelle. Une personne, il apprend du présent qu'elle a perdu sa parnassa, qu'elle a perdu Chazé Shalom.
Comment être joyeux en même temps?
C'est ce que la Gemara dit.
C'est pas logique d'être joyeux.
C'est bizarre, comme Gemara. C'est très bizarre. Quoi, ça veut dire, on lui apprend qu'il a perdu un proche, il est content, il est joyeux?
Mais c'est une décision de Dieu, malgré tout.
Alors, peut-être qu'on a la mauvaise définition de la joie.
C'est pas marqué l'iode, le signe, attention.
Les caboulés.
Caboulés, c'est pas pareil.
Ah oui, d'accord, mais ça veut dire, attention. Ça veut dire qu'en vérité, on a peut-être la mauvaise définition de la joie. C'est quoi la joie? Les gens, ils pensent que la joie, ça veut dire être content.
Non,
c'est une erreur. C'est une mauvaise traduction. D'accord. Mais c'est ça le piège. C'est un raccourci qu'on fait, et qui est un raccourci qui est archi faux. Être content, c'est-à-dire que je suis content que ça m'arrive. Être joyeux, ça veut dire garder une joie intérieure. Mais comment je peux garder une joie intérieure quand on m'apprend une mauvaise nouvelle? Donc, on est en train de développer. Alors, il dit, le kaboul et vesimcha, qu'est-ce que veut dire la Gemara? Elle veut dire que de la même manière que quand on apprend une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, on est joyeux. De la même manière, quand on apprend une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, on doit l'accepter avec la joie. Pourquoi? Qui gamzou l'étova. Parce qu'il faut se dire que tout est pour le bien. Bon, alors ça, il faut qu'on développe un petit peu. Ça veut dire quoi, tout est pour le bien? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal?
Si, il y a du mal, mais c'est pour le bien.
D'accord? Alors, et rak seulement, sh'eina niglet veniret l'enebassa. Il faut se dire que ça, en vérité, c'est du bien. Seulement, c'est un bien qui n'est pas visible. C'est-à-dire que dans ma tête, je dois me rassurer en me disant que ce qui arrive, c'est du bien. Ah, je ne le vois pas en tant que tel. Je fais confiance à Dieu que de Dieu ne peut venir que du bien. Alors, c'est vrai que pour mon corps, c'est difficile à supporter. Mais au moins, ce qu'on a gagné, c'est que pour mon âme, je peux faire ce plus facile à supporter. Parce que quand j'explique à mon âme qu'en vérité, c'est du bien ce qui se passe, au moins, mon âme sait que Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais mon corps, mais ça change pas, vous avez raison que pour
comment
mon corps.
On peut expliquer ça à une personne.
Alors, bonne question.
Qui perd ses membres.
Alors, très bonne question. La question qu'on peut dire, comment on peut dire qu'un mal est un bien? Alors, il faut bien comprendre. On n'est pas dit que le mal est pour un bien. On a dit que le mal est un bien. Pour illustrer ça, je vais vous raconter deux anecdotes qui sont très connues dans la Gemara. Et on va essayer d'analyser les différences qu'il y a entre ces anecdotes. Première anecdote très connue. Rabbi Akiva. D'accord? Il part en chemin. Il avait avec lui.
Un coq.
Ah oui, oui. Une bougie et un âne.
Et un âne.
Un âne pour transporter ses affaires. Une bougie pour s'éclairer. D'accord? Et un coq pour le réveiller le matin. Bon. Il part. Il est en chemin. Vous connaissez l'histoire. Mais écoutez bien les détails de l'histoire parce qu'il y a des nuances. Il part en chemin. Il prend la route. Il arrive dans une ville. Bon, in extremis, il arrive, les murailles sont encore ouvertes, il demande l'hospitalité, on lui refuse l'hospitalité, on le met dehors. Il se retrouve dehors, en pleine forêt, avec, vous savez, les animaux sauvages qui traînent dans la forêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il attache son âne autour d'un arbre, il prend son coq avec lui, d'accord? Il attache lui aussi, il le monte un petit peu au-dessus, il monte sur l'arbre, il s'arrange un petit peu, il se trouve un petit coin, il allume une bougie, il commence à étudier la Torah. Je sais pas comment il a fait, mais bon, il a dû faire un peu d'ombre, en tout cas, il a étudié la Torah. Il commence à étudier la Torah, très bien. Vient le vent, éteint la bougie. Eh ouais, il n'y a plus de lumière maintenant. D'accord. Donc il n'y a plus de lumière. Vient un chat, il mange le coq.
Il n'y a pas de réveil.
D'accord. Vient un lion, et il mange l'âne. C'est-à-dire que maintenant, ni il dort sous un toit, d'accord, ni il a un âne pour transporter ses affaires, ni il a le coq pour le réveiller, et ni il a rien, il est nu maintenant, il n'a plus rien.
Hachem, il a envie.
Et qu'est-ce qu'il dit à chaque fois? Chaque fois que lui arrivait la chose, parce que ça arrivait en 3 temps, la bougie s'éteint, enfin 4 temps, parce qu'il ne trouvait pas où dormir d'abord. Chaque fois, il disait, Kol David Rachamana, l'état va vite. Tout ce que Dieu fait, il fait pour le bien. Ça dit, tout ce que Dieu fait, il fait pour le bien. D'accord. Et donc, comme ça, bon, ben, du coup, il n'a pas le choix, il dort. Il dort, quelques heures plus tard, il se fait réveiller. Il se fait réveiller par quoi? Il entend un bruit de loin, des brigands. Des brigands qui sont venus. En fait, ces brigands, ils ont cassé la muraille, ils sont rentrés dans la ville, et ils ont pillé la ville. Pas seulement pillé, ils ont tué la majorité des gens de la ville. Alors, Rabbi Akiva, quand il s'est levé le matin, hein, il rentre dans la ville, qui était ouverte, et il voit le massacre, l'hécatombe qu'il y a dans la ville. Et là, il dit, Baruch HaShem, si j'avais dormi dans la ville, va savoir si je serai en vie maintenant. Si l'âne était encore en vie, peut-être que l'âne, dès qu'il a entendu le bruit des brigands, ça l'aurait réveillé parce qu'il a le sommeil, parce que bon, il a le sommeil, il serait réveillé, et ça aurait, il aurait bougé, ça aurait fait du bruit, j'aurais été repéré. Pareil pour le coq. Si le coq était vivant, ça aurait fait du bruit.
Pareil pour la lumière.
Et pareil pour la lumière. Si je t'aurais étudié qui m'a vu de loin, ils auraient vu la lumière de loin, ils auraient vu que je suis là, ils m'auraient attrapé. Donc, Baruch HaShem. D'accord. Ça, c'est une première histoire. Vous la retenez l'histoire? Mettez-la de côté dans votre cerveau. Je vais raconter maintenant une deuxième histoire. Et vous allez m'expliquer les différences que vous voyez entre les histoires. Deuxième histoire. Nahum Ish Gamzo. D'accord? Nahum Ish Gamzo, hein?
Le maître de Rabbi Akiva.
Nahum Ish Gamzo, une fois, il y avait l'empereur qui avait fait un décret. Et bon, vous savez comment ça se passait à l'époque, quand on faisait un décret, c'est-à-dire c'était une façon de montrer qu'il fallait donner un bakchich, d'accord? Pour enlever le décret. Seulement le problème, c'est que c'était qui tout double, quoi. C'est-à-dire c'était soit tu viens, on t'accepte ton bakchich, on te prend, sinon on pouvait te tuer, quoi. Du style, qu'est-ce que t'amène un bakchich pour que tu te prends? Alors les Chachamim se sont posés la question, ils ont dit qui on va envoyer? Ils ont dit on va envoyer Nahum Ish Gamzo, lui, c'est un habitué des miracles. D'accord. Ils envoient Nahum Ish Gamzo. Nahum Ish Gamzo prend la route, il y va, on l'a chargé avec une caisse pleine de diamants. On s'est dit comme ça, qu'est-ce qu'il faut pour impressionner le roi? On a rempli une caisse des diamants, pas de l'or, des diamants.
D'accord.
Alors maintenant, Nahum Ish Gamzo, d'accord, Nahum Ish Gamzo, bon, naïvement ou pas, en tout cas, il raconte. Ah, il va dans une auberge, il raconte qu'il a, il a des diamants. Il y avait un aubergiste qui était un peu, qui avait un peu laissé dans les idées. Il a attendu que Nahum Ish Gamzo est parti dormir.
Il l'a pris.
Non, il l'a pas pris. Il a vidé la caisse, et à la place, il a mis de la terre. Et il a bien refermé, ni vu ni connu. Nahum Ish Gamzo, il reprend la caisse tranquillement, il arrive, etc. Pour lui, il est sûr que voilà, bon, d'accord, pas de problème. Bah, cool, comme il aurait dit David. Et il prend ça, et il avance, il arrive. Il arrive chez l'empereur, il dit, voilà, j'ai un cadeau de la part des juifs. Bon, on va ouvrir ce qu'ils ont amené, les juifs. On ouvre, et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a dedans?
La terre.
Il y a du sable. La terre. Évidemment, le roi, dans une furie, il prend Nahum Ish Gamzo, il met en prison. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a Eliyahu Hanavi qui prend la forme d'un des ministres du roi. Et le ministre du roi, il dit, tu sais, tu devrais réfléchir deux secondes au cadeau que je t'ai envoyé. Ils ne vont pas t'affronter comme ça, les juifs. Certainement que la poussière qu'ils t'ont envoyée, c'est la poussière, la même poussière qu'avait leur ancêtre Avraham. Avraham Avinu, on raconte que quand il y avait ses ennemis, il prenait de la terre, il jetait, il s'est transformé en flèche. La terre, hein, il jetait en flèche. Et ils ont dit, peut-être que ça, ce qu'ils ont envoyé juste, c'est une arme secrète. Alors, le roi était content, il a dit, ça tombe bien, j'ai un ennemi que j'arrive pas à gagner avec toutes mes armes, peut-être avec cette arme je vais le gagner, on va essayer. Il a pris cette terre, et il l'a envoyé, et effectivement ça a marché, du tonnerre, d'accord? Il a pris cette terre, il l'a envoyé, ça se transformait en flèche, ils ont rien compris, il voyait de la terre se transformer en flèche, et grâce à ça il a gagné les ennemis. Baruch HaShem. Instantané. Alors il est revenu à Nahum Ish Gamzo, pour le remercier. Il a dit, écoute, je voudrais te remercier. D'ailleurs, bien sûr, le décret est annulé. Et il a dit, je te renvoie maintenant avec une caisse, des diamants encore plus que ce qu'il avait donné pour vous remercier. Bon, Nahum Ish Gamzo ne voulait pas, concrètement, il l'a envoyé avec, etc. D'accord. Donc, c'est deux histoires dans lesquelles on a un happy end. On a une belle fin. On est d'accord? Maintenant, quelle différence entre les deux histoires?
A priori,
il y a une différence fondamentale. Mais fondamentale, qui change tout. Les histoires, vous les connaissiez, hein, je ne suis pas là pour raconter des histoires.
La première, elle concerne une personne, la deuxième, elle concerne...
Bon, je vais vous aider. Alors, la première histoire. Est-ce que Rabbi Akiva a récupéré son âne?
Non, il n'a rien récupéré.
Hein?
Il n'a rien récupéré.
Est-ce que concrètement, c'était bien de perdre son âne?
A priori, oui.
Non.
C'est pas certain.
Non.
Ah oui.
C'est pas certain, il n'y a pas de certitude.
C'était un mal.
Un mal pour un bien.
Pour un bien.
C'est pas, il n'y a pas de certitude.
Ah, non, mais c'est clair.
Il n'y a pas de certitude que c'était un mal pour un bien, mais en tout cas...
Ah si, il y a certitude, parce qu'il avait été accueilli,
c'est
sûr, ça l'a sauvé.
Peut-être l'aurait pas vu non plus.
En tout cas, Rabbi Akiva, il voyait ça comme un mal pour un bien. Ouais. D'accord? Ça veut dire que j'ai perdu quelque chose, c'est vrai, mais au lieu de perdre 100 000, j'ai perdu 10. Bon, oh, Hachem, ça va, j'ai gagné ma vie. D'accord, mais concrètement, il a perdu 10. Dans l'histoire de Nachumish Gamzo.
Il a gagné.
C'est l'auto. Ah,
attendez, attendez, doucement. Est-ce que le roi aurait été impressionné par des pierres précieuses?
Non.
Il en a beaucoup, des pierres précieuses.
Bah, apparemment, il lui a donné le double.
Donc, ça n'impressionne pas. Il n'en a rien à faire, pierres précieuses. Ça veut dire qu'à la limite, c'est pas un mal pour un bien. C'est un mal qui est un bien. La terre était, on croyait être un mal, mais les Vassof, à la fin, Midbarer, on a découvert que ce qu'on croyait être un mal, Béhémeth, c'était un bien. La terre qu'on croyait être un problème, c'était la solution. Et c'était mieux que les diamants qu'on avait avant.
Mais il y a eu une intervention d'Hachem aussi.
Bien, il y a tout le temps une intervention d'Hachem. Mais ça change fondamentalement par rapport à l'histoire de Rabbi Akiva. Dans l'histoire de Rabbi Akiva, c'était un mal pour un bien. Ça veut dire qu'on lui a enlevé quelque chose pour lui éviter de perdre quelque chose de plus gros. Comme par exemple le Beth Amikdash. Ça nous dit au Beth Amikdash. Dieu, il a déversé sa colère sur des pierres, au lieu de déverser sa colère sur nous. Dit, c'est nous qui l'aurions dû tuer. Le Beth Amikdash, il n'a rien fait. Pourquoi il a détruit le Beth Amikdash? J'en fais la parenthèse.
En plus, on va récupérer
d'accord
un plus gros.
Ouais. Attendez.
Allez.
Donc, la façon de réfléchir comme Rabbi Akiva, c'est quoi? C'est de dire, certes, Dieu, il m'a fait un mal, mais c'est un mal pour un bien. La façon de Nachum et Gamzo, c'est d'aller encore plus fort. De dire, c'est pas seulement un mal pour un bien. Le mal est du bien. Parce qu'il n'y a pas de mal qui vient de chaque Kadosh Baruch Hu. Et Dieu, quand il veut t'envoyer du bien, il n'a pas besoin de te faire passer par un mal pour t'envoyer du bien. Il peut t'envoyer le bien directement. Lequel a raison? Évidemment, celui qui a vraiment raison, c'est Nachum Ish Gamzo qui est le maître de Rabbi Akiva.
Ça veut dire quoi?
C'est lui qui a raison que Bémet, le mal qu'on reçoit, c'est du bien. Seulement, c'est un niveau. Il faut être à ce niveau-là. Nachum Ish Gamzo, il était à un niveau de perception qu'il arrivait à voir et avoir la émouna que le mal, c'est du bien. Et Dieu lui a montré. Rabbi Akiva n'était pas à ce niveau. Attendez, je vais développer, je continue. Rabbi Akiva n'est pas à ce niveau. Rabbi Akiva, il est à un niveau dans lequel déjà, s'il arrive à se convaincre que le mal est un mal qui me, ça veut dire, c'est un mal pour un bien, qui me protège un autre bien, il est déjà content. Mais il y a un détail intéressant à cette histoire. C'est quoi? C'est que dans les deux histoires, la finalité est arrivée rapidement.
Ouais, elle est immédiate.
Elle est immédiate. C'est-à-dire que voilà, c'est une histoire de quelques jours, quelques heures, on a vu. Seulement, la complexité qu'on a dans la vie, c'est que nous, des fois, il faut attendre plusieurs millénaires pour pouvoir comprendre ce qu'on fait. Donc c'est facile à parler.
C'est combien de temps?
Donc c'est pas pareil. Bien sûr, si le gars il est en galère, mais dans deux heures il va comprendre. Bon, dans deux heures il va comprendre.
J'attends deux heures.
Mais là, il y a des fois des gens qui ont des choses qui arrivent dans leur vie, et que ça prend des fois des décennies pour arriver. Mais ça change pas, ça n'enlève pas. Que ce qu'on voit ici, c'est la manière comment la Torah nous apprend à réfléchir. Alors je dis pas qu'on va y arriver. On va peut-être arriver des fois, d'accord? On va essayer d'arriver. Mais il faut au moins savoir que ça, c'est la vérité. Je vais donner un autre exemple pour illustrer ça. Un exemple que j'ai donné Shabbat. Imaginez une personne qui rentre dans une salle d'opération. Dans un bloc opératoire. Et qui ne sait pas ce que c'est une opération. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des hommes qui sont debout sur quelqu'un. Ils sont en train de le charcuter. Ils sont en train de le couper au couteau, c'est au couteau, oui. Ils sont en train de le charcuter. D'accord? Mais seulement, attendez, j'ai pas fini. Même nous qui connaissons, qui savons que c'est une opération, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ça un mal pour un bien. Personne ne dira qu'une opération c'est bien. Une opération c'est mal, mais c'est un mal pour un bien parce que ça lui sauve la vie. Donc déjà, si on arrive à être au niveau de Rabbi Akiva, c'est pas mal. Si on arrive à être au niveau de Rabbi Akiva, à se dire que chaque chose qui nous arrive dans la vie, c'est comme une opération. Ça veut dire que même si extérieurement on a l'impression qu'on nous charcute, mais en vérité c'est un mal pour un bien, pour nous guérir, c'est déjà pas mal. Mais Béhémeth, quand Mashiach va venir, on va être au niveau de Nachum Ish Gamzo, qui est un niveau beaucoup plus fort, qui va nous montrer que le mal c'est du bien. Et ça Béhémeth, il va le mentionner plus tard, c'est écrit que dans une des prophéties d'Isaïe, c'est écrit que lorsque Mashiach va venir, on dira à Dieu, Odra Hashem ki anaftabi, merci Dieu de m'avoir fait souffrir. Fait souffrir.
C'est ça le problème de ce monde-là.
Pourquoi? Parce que quand Mashiach va venir, on sera au niveau de Nachum Ish Gamzo, de voir que pas seulement que le mal était pour un bien, le mal était un bien. Et donc on dira Hashem merci. Merci pour ce mal qui est un bien. Parce qu'il faut retenir ce principe. Il n'y a pas de mal qui descend à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu crois? D'abord, il faut être d'accord, on doit partir. C'est pour ça qu'il faut comprendre le chapitre 26, il vient avec tous les chapitres qu'on a vus avant. On est d'accord que dans tous les chapitres qu'on a vus avant, on arrive à la conclusion que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. On est d'accord? Bon, c'est une base. Sinon, on revient au chapitre 1. Donc, on retombe pas à la case départ. On sait que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu t'envoies du mal? Après, un matin, il se lève, il dit, tiens, celui-là, on va l'embêter. On va dire, oui, peut-être on veut le punir. Alors quoi, on veut le punir? Vous pensez vraiment que tout ce qui arrive aux gens, c'est des punitions?
On veut nettoyer. Il y a eu des époques où c'était des punitions.
D'accord. Quand tu vois des gens bien qui souffrent, pourquoi ils souffrent? Pourquoi ils souffrent?
Bah justement, on ne sait pas.
C'est ça. C'est la question.
On n'a pas la réponse.
Mais ils font.
Pour la faute des autres, malheureusement.
Pourquoi?
La faute des autres.
Ah, c'est pas une réponse, là, excuse-moi. C'est pas une réponse. Pas une réponse. Dieu n'a pas de façon de réparer le problème.
C'est ce qu'on nous apprend.
Bah, ça ne tient pas la route. Je vais arrêter mon vocabulaire ici. D'accord? Ça ne tient pas la route.
Comment ça marche?
Attendez. C'est le paradoxe d'un juif.
C'est comme la route. On a beaucoup posé des questions avec de grands adéquipes qui n'ont pas d'enfants.
Oui, bien sûr, le rabbi.
Il y a une raison.
Alors pourtant,
c'est pas de sa faute.
Bien sûr, c'est pas de sa faute.
Alors, c'est la faute de qui?
Des millions. Non.
C'est la faute, on appelle la mandate un rabbi.
Quel rapport?
Il supporte la faute des autres. Là. C'est comme ça.
Quel rapport? S'il veut pas lui donner d'enfants, il veut pas lui donner d'enfants.
Mais pourquoi?
Tu es pas dans les comptes.
Non, mais... Tu es pas dans son carnet. Que ne pas avoir d'enfants, c'est un supplice.
Mais je suis d'accord
c'est
avec toi.
C'est pas quelque chose de bon.
Mais d'accord, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de descendance, ça veut dire. Il y a des conséquences.
Oui. Comment tu peux expliquer que dans une famille, par exemple, tu as un enfant, mais l'enfant, il est atteint d'une maladie incurable.
Exactement.
Comment tu fais?
Voilà. Écoutez cet exemple. Voilà. Une famille, t'as 5 gosses, d'accord? Dieu préserve, il y a un gosse, il sort avec une maladie incurable. Pourquoi lui?
Maladie rare.
Maladie incurable rare. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait?
Comment tu vas dire?
Ça veut dire que. Alors on va t'expliquer, c'est un guigoule, c'est un truc. C'est des choses vraies tout ça. C'est des choses vraies. Mais ça change pas que être au niveau de Nahum et Gamzou, c'est un niveau extraordinaire. C'est de dire. C'est même pas de dire que le mal est pour un bien. Le mal est un bien. Je vous donne un exemple.
Mais comment, pour revenir au chapitre, comment on combat la dépression? Évidemment, la négativité.
Notre but maintenant, c'est de comprendre que tout vient de Dieu. Et qu'en vérité, c'est du bien. Mais on va développer, on fait que commencer là.
Oui, je comprends. Mais quand on est à la première minute.
Pas pour la bonne, pas pour cette génération.
Ou à la dixième minute de l'annonce.
Tu sais que ça vient de Dieu.
Non, tu peux pas.
Bien sûr, tu sais. Tu peux. En même temps que Dieu, il envoie une épreuve à quelqu'un, il envoie la sérénité. Moi, j'ai vu de mes yeux ça.
Ah ouais?
Les gens qui ont eu des épreuves qui leur sont tombées sur la tête, ils ont une sérénité à envier. Non. C'est pas comment ils arrivent à être sains. Moi, j'ai vu de mes yeux. D'accord. Moi, ça, je l'ai vu de mes yeux. Et pas une fois. Pas une fois.
Parce que tu le vois tous les jours.
Après, bien sûr qu'il y a le contraire. Mais ouais. Sache que les gens comme ça qui souffrent, Dieu leur a donné aussi la force de surmonter, de garder une sérénité.
Ils ont le choix.
Et c'est clair.
Ils n'ont pas le choix.
Pourquoi? Pourquoi? Parce que, non, c'est pas qu'ils n'ont pas le choix. Ah, c'est comme Capara, tu vois, le gars, il n'a pas le choix, il est donné Capara. Non. Pas du tout. C'est pas qu'il n'a pas le choix. C'est qu'il se dit, Dieu, il sait ce qu'il fait.
Tu vas te prendre.
Non. Et ce que Dieu, il fait, moi, il le fait pour le bien.
Cas où les gens, ils disent pas ça.
Tu as raison. J'ai pas dit que tout le monde dit ça. Pas, sinon, ma chère serait déjà là.
Pourquoi moi et pourquoi, et pourquoi lui?
Tu as raison, bien sûr. Tu as raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, notre but ici, j'avais un autre exemple à donner, bon, j'ai oublié, mais quittez. Ça veut dire que notre but ici, c'est d'expliquer comment en vérité, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, Akadosh Baruch Hu, il le fait pour le bien. Et ça, on doit être convaincu de ça. Et même quand c'est difficile, d'accord? Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, même quand mon corps ne l'accepte pas, mon corps il dit je ne suis pas d'accord avec ça, mais au fond de moi, je dois avoir une sérénité d'avoir la émouna, de savoir que Akadosh Baruch Hu sait ce qu'il fait, et qu'en vérité, ce qui nous arrive, c'est du bien. Ah, pourtant, je ne comprends pas. Eh ben,
je comprends plus rien.
Quoi?
Je fais une avéra.
Oublie l'avéra. Non.
Quelque chose qu'il ne faut pas.
Oui.
Tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il me fait faire, c'est pour le bien.
Bien sûr.
Après, je vais me repentir.
Non, c'est pas la même chose, là. Quel rapport?
Quoi?
C'est pas Dieu qui fait, c'est moi qui fais.
Tu as pris l'exemple d'un Fomichkamzou.
Oui.
Fomichkamzou, tu sais comment il a fini sa vie. Et il a prié pour ne plus avoir de monde, etc. Pourquoi? Parce qu'il a mis du temps. Il a mis du temps à donner du pain à un pauvre qui, entre-temps, est mort.
Uh-huh.
C'est pareil, une histoire dans le désert. Le problème, cette personne, de toute façon, elle devait mourir. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien.
Oui.
Pourquoi il a promis que donc il s'est...
Bon, parce que c'était une teshuva qu'il avait.
Quelle teshuva? Tout ce qu'il fait, Dieu, c'est pour le bien.
Je ne suis pas en train de justifier les actes que nous, on fait. Là, on parle des choses sur lesquelles on est complètement passif. Des choses qui nous arrivent.
Et il t'arrive pas pour rien. Les choses, ils n'arrivent pas pour rien.
Oui, mais j'ai bon compris. Bon. Mais concrètement, c'est des choses, j'ai compris. Mais dans ce cas-là, c'est des choses qui m'enlèvent la simcha.
Évidemment.
Alors, c'est ce qu'il va t'expliquer ici. Il faut savoir qu'il n'y a pas de mal qui vient de chaque Kadosh Baruch Hu. Mais on va développer.
Non, je suis d'accord qu'il n'y a pas de mal qui vient de chaque Kadosh Baruch Hu. Mais ça ne veut pas dire...
Ça veut dire que pourquoi je suis déprimé ? Parce que ce qui arrive, je le perçois comme un événement négatif.
C'est un événement négatif.
D'accord ? Viens la Torah pour te dire, dans l'absolu, il n'y a pas d'événement négatif.
Dans l'absolu.
Sauf que, nos yeux ne le voient pas. Eh ben, c'est pas de problème. Je le conçois. Nos yeux ne le voient pas, mais il faut savoir que dans l'absolu, il n'y a pas d'événement négatif. Et c'est quoi la force des tzadikim ? La force des tzadikim et la force des gens bien comme ça, c'est la force de voir la finalité et de voir le bien qu'il y a dans le mal.
Alors, s'il pouvait nous rajouter un petit kiff de nous dire, voilà, tu prends une gifle, mais tu sais pourquoi ? Ce serait sympathique.
Non, mais non, c'est pas ça qu'il faut demander.
Non, même pas ça.
Il faut demander l'eau à l'idée Issourim, le Chola Imraim.
D'accord. Mais là, on parle, c'est déjà arrivé maintenant. Mais là, c'est déjà arrivé. Là, on parle d'une personne qui a déjà le problème. Et il veut un conseil, comment faire pour enlever le souci de sa tête. Concrètement, qu'est-ce qui va lui rajouter le souci ?
C'est très compliqué.
Okay. Non, mais c'est vrai.
Mets-toi dans le fait. Il y a quelqu'un qui vient te voir, il lui arrive un gros malheur.
D'accord. Qu'est-ce que les soucis vont lui rajouter ? Ah, moi, j'ai une question à te poser. D'accord. J'ai une question à te poser. Non, mais c'est sérieux. C'est une question sérieuse que je pose. Quelqu'un qui a un problème, qu'est-ce que vont rajouter les soucis ? Il ne va rien rajouter. Ça peut qu'embêter.
C'est malgré lui.
Et, alors, exactement. Donc, puisque c'est malgré lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se travailler. Il faut se travailler maintenant. Pour calmer le souci. Comment je vais calmer le souci? J'ai pas dit que je vais ignorer le problème. J'ai pas dit que je vais pas chercher à régler le problème. On va aller voir les médecins. On va faire tout ce qu'il faut. On va chercher à régler le problème.
Alors, il dit que c'est quoi la technique, alors?
Alors, on va voir. La technique, c'est de se convaincre que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Mais on va développer.
Comme ça, au stade, là, de d'explication, c'est inabordable.
Là, c'est cru. Là, c'est cru, là. Attends. Il faut qu'on cuisine. Alors.
Les ingrédients.
Alors, on continue. Dis maintenant, comment une personne va se dire que c'est Bessimcha qui gamzou les Tova, car tout est pour le bien. Rak, Sheina Nirei, donc je suis en bas de la page 11. Rak seulement, chaque mot ici ça vaut de l'or. Rak seulement, Sheina Nirei, Nirei, Nebassar. Sauf que c'est du bien, sauf qu'on ne le voit pas en tant que bien. On n'a pas les bonnes lunettes. On voit noir alors qu'en vérité c'est blanc. Pourquoi ? Ki me alma deit kasia, shelmala me alma deit galia. Là on va rentrer dans le Zohar. Le Zohar nous dit que dans la manière comment Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, il y a deux mondes. Il y a le monde dévoilé et il y a le monde caché. Ce qu'on aurait, on peut appeler ça en français, il y a le monde tel qu'on le perçoit et il y a les coulisses. Du même monde. Et quand tu rentres dans les coulisses, c'est un autre monde. Alma de Itgalia, le monde qui est dévoilé. Alma de Itkassia, le monde qui est caché. Maintenant, je vais vous expliquer. Comment on voit ça? On retrouve ça dans les lettres du mot Yudke Vavke. Yudke Vavke. D'accord? Vous prenez le Yud. C'est quoi le Yud? C'est un point. Le He, c'est le développement du point. Le Vav, c'est quand ça descend vers l'homme. Le He, c'est quand on a développé en bas. Yudke, c'est le monde tel qu'il est perçu en haut, dans les coulisses. Vavke, c'est le vav, c'est que ça descend vers l'homme, et le he, c'est comment l'homme comprend ce qui se passe. Il y a deux modes possibles. Premier mode possible, c'est quoi? Yudke, vavke. Dieu a envoyé un chesed dans le yudke, et ce chesed est descendu jusqu'à chez l'homme, et c'est perçu en tant que chesed. Ça, c'est le top. C'est quand c'est du chesed en haut, qui a été perçu comme du chesed en bas. Maintenant, des fois, c'est que yudke. C'est quoi Yudke? C'est quand on sait que c'est du bien en haut, mais ça descend pas en bas en tant que du bien. C'est pour ça, qu'est-ce que dit le verset? David Amelech, il dit, Ashre a Gever, Asher te yaserenu ya. Heureux est l'homme que Yudke l'a éprouvé. C'est quoi Yudke qui l'a éprouvé? Ça veut dire que c'est du bien, mais qu'il n'a pas eu le Vavke pour voir comment en vérité c'est du bien ici-bas. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Ashre a Gever. Heureux l'homme qui comprend qu'en vérité, derrière le Teyaserenu, derrière l'épreuve, qui c'est qui était derrière? Yudke, c'était Akadosh Baruch Hu. Je sais pas si vous avez compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il y a des fois où Akadosh Baruch Hu, il envoie un bien qui est un bien et qui est perçu comme un bien.
On a compris
que. Et il y a des fois dans lesquelles Akadosh Baruch Hu, il envoie un bien qui n'est pas perçu comme un bien. Mais ce qu'on doit être persuadé, c'est que tout ce qu'envoie Akadosh Baruch Hu, c'est du bien. Qu'on le comprenne ou qu'on le comprenne pas, ça change rien. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le émet. C'est important de savoir où est le émet. Même si mon corps ne suit pas, même si ma tête ne suit pas, c'est important de savoir où est la vérité. Parce que quand je sais où est la vérité, ça m'apporte une sérénité. Vous savez, des fois, hein, Ce qui est le plus difficile pour les gens qui perdent un proche comme ça, ou pour les gens qui ont des grosses difficultés qui arrivent, surtout quand c'est soudain, et surtout quand c'est pas normal, comme vous avez par exemple, je préserve, des parents qui ont été à leurs enfants, ce qui est des choses qui sont pas normales.
C'est pas normal.
Je préserve, c'est pas dans l'antre. Quand on vient, quand ils lisent un chapitre de Tanya comme ça, qui te dit, sache que Dieu, il sait ce qu'il fait, sache que c'est du bien, même s'il va pleurer, même s'il dormira pas de la nuit, même s'il est angoissé, et même si ça va l'accompagner toute sa vie, parce que c'est un problème, qu'il accompagnera toute sa vie, ça c'est clair, le veuf qui il l'aura jamais, toute sa vie, ce sera quelque chose, un poids qui va peser sur lui. Mais au fond de son corps, il pourra avoir une sérénité de savoir que, au fond de moi, je sais que Dieu sait ce qu'il fait. C'est un petit peu comme un enfant par rapport à son père. D'accord. Son père, il a pris une décision que l'enfant n'a pas compris et que pour l'enfant, c'est un drame, c'est une catastrophe. Mais au fond de lui, l'enfant, il connaît son père et il sait que papa, il sait ce qu'il fait. Maintenant, il n'a rien compris. Il dit, c'est très grave, comment il a pu faire ça, c'est très très grave. Mais au fond de lui, il y a une petite voix qui lui dit, oui, mais quand même, papa, il sait ce qu'il fait. Cette petite voix va faire en sorte qu'il ne va pas péter les plombs. Excusez-moi du terme, mais c'est le seul terme que je peux dire. C'est cette petite voix. Qu'est-ce qui fait qu'il va réussir à tenir sur ses pieds? Parce qu'au fond de lui, il sait que c'est Yudke qui est derrière. Seulement, il n'a pas eu la chance de voir le Vavke. Maintenant, il faut encore qu'on explique, mais ça, on n'a pas fini.
Non, c'est le démarrage.
C'est que le démarrage. Ce qu'il faut qu'on explique, c'est de quoi il y a à être heureux de ça.
Heureux, je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, on n'a pas dit d'être heureux. On a dit rien qu'on combat la dépression, la négativité.
Oui, bien sûr. Bah, oui.
C'est pas être heureux. Tu peux la combattre en sachant que c'est voilà. Un problème.
Donc maintenant, je suis pas encore heureux. Là, c'est-à-dire là maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné déjà avec
pas célébrer, une mère, elle peut pas célébrer.
Bien sûr, je suis d'accord, 100%.
Ses enfants. Qu'est-ce même que... si elle sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui le veut.
Temporairement, on va quitter l'approche de Rabbi Akiva, qui est une approche qui est plutôt complexe. L'approche, pardon, de Nachum Ish Gamzo. L'approche de dire que le mal c'est du bien. Ça, c'est pour, on va laisser ça pour Moshiach. On va se remettre à l'approche de Rabbi Akiva. Il dit que quand j'ai un mal, quand Dieu préserve une personne, un mal qui lui arrive, c'est un mal pour un bien. Le problème, c'est quoi? C'est que on ne le voit pas. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans le cours d'aujourd'hui? Dans le cours d'aujourd'hui, on a appris à comprendre qu'en vérité, tout ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est du bien. Sauf que, des fois, on a la chance de voir le Vavke, des fois, on n'a pas la chance. Mais, comme j'ai dit, on n'a toujours pas répondu en quoi c'est une raison d'être Bessimra. En quoi il y a une raison d'être joyeux. En quoi une personne qui va avoir une épreuve va accepter l'épreuve avec la joie? Tu peux dire qu'il accepte dans l'indifférence, tu peux dire qu'il accepte en essayant de pas être déprimé, mais l'accepter dans la joie, être content de ça, comment ça marche? Comment c'est possible? Ça, pour répondre à cette question, il faut encore un cours. Donc je laisse ça pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Expliquer le paramètre de la joie dans l'épreuve. Déjà, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est l'importance de ne pas sombrer dans la dépression à cause de l'épreuve. Je sais qu'il y a un Dieu qui sait ce qu'il fait. Quand je sais que c'est sous contrôle, déjà ça me calme. Maintenant, de quoi y être joyeux, ça il faut qu'on explique, ça il nous faudra au moins un cours sur ça. Voilà. Je laisse ça pour aujourd'hui, j'ai pas envie de bâcler. Parce que, on en a plusieurs marottes qui parlent de ça, qui vont parler comment Akadosh Baruch Hu, le mérite qu'a une personne qui arrive à être joyeux dans l'épreuve. C'est extraordinaire, c'est énorme. Alors, je vais raconter une histoire pour illustrer ça, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous savez, il y avait une fois, dans ces chapitres, j'ai beaucoup d'histoires. Parce que dans ces chapitres, j'ai beaucoup d'histoires. Quand j'avais préparé ça, j'avais beaucoup d'histoires que j'avais trouvées. Et je vais raconter une histoire pour illustrer ça. Une fois, il y a un chassid qui est venu voir le Baal Shem Tov. Qui lui a dit, Rabbi, j'ai un problème. J'ai beaucoup de soucis dans ma vie. Et j'arrive pas à être Bessimra. Alors, le Baal Shem Tov, il lui a dit, tu vas aller voir mon élève, Rabbi Zusha Donipoli. Il vit dans telle et telle ville. Il va là-bas, à la ville, à Anipoli, il demande, je cherche Rabbi Zusha. On dit, Rabbi Zusha, on ne connaît pas Rabbi Zusha ici. Il n'y a pas de Rabbi Zusha. Quoi, il n'y a pas de Rabbi Zusha? Je t'ai envoyé, il n'y a pas de Rabbi Zusha. Il dit, bon, peut-être c'est un sadique qui se cache. Alors, il cherche tous les Zusha qu'il y a dans la ville. Zusha, etc. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à qu'il tombe sur une personne qui habite au fond d'un village, comme ça, au fond du village, comme ça, dans une petite baraque, comme ça. C'est un trou. Ça veut dire que il y avait une sorte de
planche de bois.
De planche de bois qui faisait office de table, de chaise, de banc, de lit. C'était multifonction, d'accord, multi-usage. Et lui, il voit ça, il dit, oh là là, j'ai trouvé un télékista extraordinaire, extraordinaire. Alors il voit, il dit, voilà, je viens vous voir de la part du Baal Shem Tov. Il n'y a pas de problème, venez, asseyez-vous. Bon, j'ai pas grand-chose à vous servir, mais venez, je peux qu'on peut discuter un petit peu, etc. Il discute. Ah, il discute Shalom Aleichem, Divrei Torah, etc. À la fin, Rabbi dit, bon, dis-moi, qu'est-ce qui vous amène? Ah, il dit, voilà, le Baal Shem Tov, il m'a dit de venir vous voir, parce qu'il m'a dit de vous demander comment faire pour être besimcha quand on a des soucis? Rabbi Yehoshua lui répond, il lui dit, désolé, je ne sais pas ce que c'est les soucis.
Ça, c'est l'autre qui désigne.
Mais c'est pas ça ce qu'on veut, dans le tenir. C'est pour ça que je raconte l'histoire. C'est pas notre but. C'est pas de dire, on ne sait pas ce que c'est les soucis. C'est d'être conscient du souci, et tout en étant conscient paradoxalement du souci, se dire que ça vient d'un Kadosh Baruch Hu et que c'est du bien. Je me rassure intérieurement. Mais il faut expliquer encore après pourquoi je dois être Bézimra de ça, ça donne mon explication. Mais il faut savoir qu'en même temps que Dieu envoie une épreuve à quelqu'un, il lui envoie l'effort pour la surmonter. Ça c'est clair.
Mais il lui envoie la solution
pour la Non, j'ai pas dit la solution.
C'est la force pour la surmonter.
Les forces pour la surmonter. Attention, ne tombe pas dans ce piège.
J'ai compris, mais est-ce que...
Il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler.
Ou pas.
Il faut savoir ça. Il faut chercher à les régler, mais il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler.
Il
n'y a pas toujours de solution. Il y a la prière, etc.
Il
n'y
a pas de solution. Il y a une dame qui peut perdre son enfant.
Il n'y a pas de solution.
Il y a pas de solution. Par rapport
divers et variés, il n'y a plus de solution.
Bah oui,
il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La question n'est pas sur la solution, la question est sur l'état d'esprit que je dois avoir.
Non, ça j'ai compris.
Voilà.
Mais bon, dans certains cas,
on laisse là pour aujourd'hui.
Bah, comme tu as dit, le gars là qui est parti, il a perdu son billet, hop, et il était derrière, et tiens, hop, je te prends le billet. Pas.
Oui.
C'est une solution.
Ça c'est de l'insuffisance.
C'est un miracle.
C'est un miracle.
Non, mais c'est une solution.
Oui, mais ça c'est pas le Tania, ça. Ça c'est pas le Tania. Non, mais je vous dis, la dernière fois on a parlé de Hassanim Braslav. Moi j'ai vu de Hassanim Braslav comme ça aussi. Pas dans l'insouciance, mais limite, ça veut dire qu'il dit, bon, t'inquiète pas, le gars, il va pas au boulot, tu vois. Ah, t'inquiète pas, Dieu va envoyer. Et ben, Dieu, il aide. Dieu, il aide, c'est vrai. Ces gens, ils vivent, ils meurent pas de faim.
Ils ont des moulins.
D'accord. Mais ça, est-ce que c'est un but d'être comme ça?
Non, c'est une question de
caractère. L'approche de Chabad, c'est que c'est pas un but d'être comme ça.
C'est une question de caractère. Mais...
Parce que, bien sûr, Dieu va s'occuper. Imaginez, vous avez un enfant qui se laisse aller, vous allez pas s'occuper de lui. Vous allez pas vous occuper de lui, bien sûr, vous allez vous occuper de lui.
Non, l'approche des Bretzlev, c'est différent. Bretzlev, il dit. Tu suis le rabbi Bretzlev et lui t'amène le reste.
Oui.
Fais la Torah dans sa direction et lui se charge auprès d'Akadosh Baruch Hu de t'amener le reste.
Une grande démarche, les Bretzlev. Enfin, si vous voulez, on fera un autre cours dessus. C'est pas mon but, mais.
Non, mais je veux dire, et ce qui est agréable chez les.
Oui, bien sûr. Ils vont pas chez le docteur, par exemple.
Non.
C'est que ça?
Ah ouais?
Ils vont pas chez le docteur.
Ils vont pas médecine alors.
Ils vont pas chez le docteur. Bon, non, c'est fort quand même.
Ouais.
Mais s'ils doivent être opérés, comme ils font.
Ils vont pas chez le docteur.
Ils sont pas malades.
Pas mal.
Témoin de Jéhovah. Gâcherie quand même.
Hein?
Témoin de Jéhovah.
Lève-dit. Bon, c'est un niveau.
Okay.
D'accord? Nous, le niveau de Chabad, c'est différent. Le niveau de Chabad, c'est de dire que on accepte qu'il y a un problème, on accepte qu'il y a un mal, mais, comme on a expliqué, on cherche à voir le mal qu'il y a dans, le bien qu'il y a dans le mal. Mais il faut expliquer encore comment on peut être Bessimra de ça. Ça, on l'a pas expliqué. Ça, c'est une paire de manches. Voilà. Allez, on va savoir la semaine prochaine.
Tout à l'heure, quand on a parlé de la paracha.